Clara Dupont-Mono. Eh bien, votre chronique est consacrée à l'ouvrage de notre invité Mathieu Sapin.
Eh bien oui, c'est notre actualité. Donc votre ouvrage, je le rappelle, qui s'appelle Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, de Mathieu Sapin, donc c'est vous. Et oui. Cet album...
Pour une fois que vous ne vous plantez pas dans le nom de l'invité, allez-y.
Et cet album, pour moi, il soulève à nouveau une question, mais qui court quand même depuis plusieurs années au sein des petits milieux culturels. Et cette question, c'est, et si les meilleurs journalistes aujourd'hui, c'étaient les auteurs de bandes dessinées? Quand même, parce que plus long qu'un reportage et plus illustré qu'un livre, la BD, elle vous permet à la fois d'être réactif et en même temps de prendre le temps de traverser les apparences. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu la condition de base de l'exercice journalistique. Et vous, vous poussez même le mix encore plus loin parce que vous faites une espèce de cocktail entre l'entomologiste et le Candide de Voltaire. C'est-à-dire qu'on a les infos que vous donnez et l'étonnement que vous avez sur ces infos. Alors vous vous baladez, vous vous êtes trimballé un peu partout dans les voyages officiels, limite si vous n'êtes pas sous les bureaux, vous êtes un peu tout le temps. Mais c'est vrai, vous êtes la petite... D'accord Charline. Vous
êtes... Bah, la petite souris, voilà, elle est partout, ça. Dans la cave,
exactement.
Dans les cuisines, chez la fleuriste.
Et la petite souris posée sur l'épaule des puissants. Donc il y a une espèce de mix entre Albert Londres et Jiminy Cricket un peu. Vous voyez, c'est un peu ce mix-là. Et alors, du coup, vous nous révélez les coulisses. Alors, il y a les coulisses découvertes. Donc par exemple, on découvre les plans de l'Élysée, pardon, sous-sol compris. Ça, moi, ce que j'avais jamais vu. Mm-hmm. On apprend aussi
très
que...
utile pour un djihadiste. Par exemple,
ah, ça c'est sûr qu'à la Maison Blanche, ça va être chaud.
On apprend que Nicolas Sarkozy a fait supprimer les fromages lors des menus officiels pour aller plus vite, parce que comme ça on perd moins de temps. Il faut 6 mois pour organiser la venue de la reine d'Angleterre, et on apprend aussi qu'en cas de visite officielle de la Chine, il ne faut surtout pas de fleurs blanches, puisque les Chinois considèrent que c'est la fleur du deuil. Donc il y a tout un protocole qui est extrêmement strict. Et ce qui est très intéressant, c'est que la rigueur millimétrée du protocole s'oppose en fait au chaos de l'organisation politique. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, on peut mesurer la distance qu'il y a entre 2 bougeoirs sur une table officielle, et la distance, vous nous la prenez, c'est de 3 cm maximum, il faut absolument ça. Mais à côté de ça, côté décision politique, c'est totalement l'anarchie. Il n'y a pas de concertation, mais oui, c'est très intéressant. Il n'y a pas de concertation entre les services, le monde décisionnaire est rempli de chausse-trappe, on ne sait jamais ce que pensent les uns les autres, et puis surtout, les gens valsent comme ça. Votre interlocuteur, Christian Gravel, vous apprenez qu'il n'est plus là alors que vous venez de lui faire un message il y a 15 secondes et vous apprenez subitement qu'il a été éjecté. Sur Aquilino Morel, vous vous étonnez, je cite, que l'équipe parle de lui comme s'il était mort et enterré. Ce sont vos mots. Donc l'Élysée, c'est un milieu en fait où la rigueur protocolaire s'oppose à l'arbitraire politique.
Bon, on a la solution si on mettait le chef du protocole, le chef du gouvernement, tout
ça. En tout cas, ça manquerait pas de rigueur, effectivement, parce que, alors, en plus, eux, ils sont au taquet tout le temps. Mais cette opposition, elle est assez intéressante. Alors après, vous faites ce que j'appelle, moi, les coulisses parano. On découvre que l'Élysée a un bunker, je sais pas comment on dit,
bunker.
Secret ou sous-sol, donc il s'appelle Jupiter, vous n'avez pas le droit d'y entrer.
Oui. Alors, ni d'en parler,
bon, bah, c'est clair, c'est fait. Mais on imagine quand même le président de la République qui se met tout seul dans son bunker qui ressemble à une cabine de WC, là, public, vous savez, en cas de guerre thermonucléaire, il serait tout seul, c'est l'idée qu'il serait protégé, mais enfin, c'est un peu étrange. On apprend que depuis les enregistrements sauvages de
on
Patrick...
On se fait l'image, du coup, dans
mais complètement,
cabine,
mais complètement. On apprend que depuis les enregistrements sauvages de Patrick Buisson, on monte une table avant les réunions, les conseillers et les ministres doivent poser leur portable sur la table, qu'on démonte après.
Dans la salle à côté.
Voilà, et la table est démontée ensuite. Ouais. Il serait juste un peu plus simple de laisser une table en permanence, mais on la monte et on la démonte. Et on apprend aussi ce que c'est que le Kevlar, qui est un bouclier qui est caché sous forme de mallette que déploient les gardes du corps devant le président en cas d'attaque donc du président. Et puis après, il y a les coulisses pas très glorieuses, où là vous révélez les travers des gens. Je pense à ce garde du corps qui a planquer le portrait de Nicolas Sarkozy au moment où il a été remplacé par François Hollande, un peu en loose day, mais il a gardé le portrait, il l'a glissé entre deux meubles.
Je pense qu'on le voit pas, mais ça peut servir, ceci dit.
Ça peut servir, exactement.
Je vais me faire massacrer.
On lit les commentaires vipérins des journalistes qui sont en salle de presse, et alors en parlant des journalistes, et on y revient quand même, on les voit sous un jour catastrophique.
C'est vrai.
Ah, mais,
ah,
mais...
Non, mais ils sont sympas.
Ben, je veux bien croire, mais les journalistes qui suivent l'Élysée voulaient montrer, et c'est sans doute vrai, je ne sais pas, mais voulaient montrer comme une meute bourdonnante, un essaim qui est sans arrêt collé au basque de l'équipe présidentielle, dans l'attente d'une petite phrase, de quelques miettes. Alors, ils font des hypothèses, ils font des commentaires, ils attendent fébrilement la sortie du Conseil des ministres, alors qu'il ne se passe rien. Les ministres sortent et regagnent leur voiture.
Ça, il ne se passe rien.
Ben oui, non, quand ils sortent, non, quand ils sortent. Alors, on les voit qui crient Monsieur Fabius, Madame Taubira, Madame Royal. Et en fait, ils vont vers leur voiture, il ne se passe absolument rien. Et d'ailleurs, à un moment, vous demandez à un photographe mais pourquoi tu es là? Bon, c'est la question sans coup de ça. Oui, pourquoi es-tu là?
Il pose les bonnes questions, ben oui. Mathieu Sapin.
Exactement. Et alors, ils s'agglutinent dans les avions, dans les hôtels, dans les salles de presse. Et quand on veut les chasser, vous les comparez, je vous cite, à des troupes de légionnaires qu'on aurait évacuées d'un défilé Victoria's Secret. Donc, alors, vous montrez aussi que parfois, ils peuvent être dangereux. Et lors d'un déplacement en Arménie, ça vous le dessinez, les journalistes font une blague. Ils font croire à leur rédaction que François Hollande a déclaré « J'ai parlé avec Charles Aznavour de son ISF et je lui ai demandé de revenir payer ses impôts en France. » Moyennant quoi, les rédactions en France prennent cette info au sérieux, commencent à la propager.
Ouais, juste avant. Ben, ouais,
bien
ça
sûr,
juste avant.
Bien sûr. Et les journalistes affolés téléphonent à leur BFM TV et compagnie en disant ne diffuse pas cette information, c'était une blague. Comme quoi, on sait, donc il y a un côté, qu'est-ce qu'on se marre avec l'info quand même. Mais bon, il y a un côté un peu... En tout cas, votre BD, elle fait honneur au journalisme. C'est jamais voyeur, c'est jamais survolé et c'est jamais complaisant. Donc un grand merci. Je redonne les références. Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, c'est publié chez Dargaud.